Nous voulons souhaiter la bienvenue et souhaiter dire bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints pour cette réunion ce soir. Ce soir, nous allons écouter une réunion de Pasteur Stegen. Et malheureusement, en raison du temps qui nous a imparti, il n'y aura pas de chorale ce soir. Mais avant même le début de ces réunions, de cette conférence de jeunes, il y avait une prière dans mon cœur. Mais ma prière, c'était que moi et que chacun d'entre nous, nous ayons l'esprit et le cœur qu'avait Esther. Esther était une orpheline élevée par son oncle Mardoché, et Mardoché l'a traitée comme sa propre fille. Et nous savons comment, dans l'histoire, Mardoché a donné l'instruction à Esther de ne pas révéler ses origines lorsqu'elle se présenterait au palais royal. Et aussi, quand les jeunes filles avaient le choix au moment où elles devaient se présenter devant l'empereur, elles avaient le choix et pouvaient choisir l'apprêtement qu'elles voulaient. Mais Esther, elle, a suivi les instructions et les conseils que Hegé a donné, l'eunuque qui s'occupait des femmes. Elle a suivi le conseil de Haggai et n'a pas fait ce qu'elle voulait. Et nous voyons dans l'histoire que 5 ans après être devenue l'impératrice, elle avait toujours rien dit, elle n'avait toujours pas révélé qu'elle était d'origine juive. Même après 5 ans, même après avoir été reine, elle suivait les conseils de Mardoché. Et il est dit dans une certaine traduction qu'elle n'avait pas, elle s'est conformée à ses instructions comme au temps où elle était encore dans sa maison. Donc elle était orpheline. Elle est passée d'une situation d'orpheline, réfugiée, à la plus haute position dans l'Empire. Mais sa disposition de cœur, son attitude d'être prête à recevoir des conseils et de suivre les conseils n'a pas changé. Je me suis dit, moi, est-ce que j'ai cet esprit ? Est-ce que j'ai ce cœur qui est prêt à être enseigné ? Si je n'ai pas ce cœur, si je n'ai pas cette attitude, alors toutes les réunions que nous pouvons écouter, que nous pouvons entendre, seront comme des perles, mais qui ne serviront, qui n'auront aucune valeur pour moi. Et avant de continuer, nous voulons encore prier. Seigneur, nous te remercions que tu aies permis que tous ceux, toutes celles qui écoutent cette réunion puissent le faire. Nous te prions, Seigneur, que cela ne soit pas en vain. Que nous puissions avoir un cœur avec ce sol fertile, ce sol meuble, bien disposé pour recevoir la semence que tu veux donner. C'est pourquoi, Seigneur, parle à nos cœurs. Amen. Nous voulons prier encore. Seigneur Jésus, nous te prions, sois avec nous encore, s'il te plaît. Nous voulons, comme Marie, être assis à tes pieds pour entendre tes paroles. Parce que ta parole dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. C'est pourquoi bénis ta parole, Seigneur. Éclaire là où il y a les ténèbres. Amen. Notre texte se trouve dans le livre de 2 Timothée 3, chapitre 3. De Timothée, chapitre 3, verset 1. « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent. » Donc, il est dit dans ce verset que les temps seront difficiles à cause des hommes qui seront avides, qui seront cupides. Mais rappelez-vous que la parole de Dieu nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La Bible ne dit pas que l'argent est le problème. C'est une erreur de dire que l'argent est la source de tous les maux. Mais la Bible dit que c'est l'amour de l'argent qui est la source de tous les maux. L'argent en lui-même n'est neutre. On ne peut pas dire que l'argent est mauvais ou bon. Mais là où la méchanceté apparaît, c'est quand il y a l'amour de l'argent. L'argent ne fait pas de nous des gens méchants ou des gens bons. Par contre, l'amour de l'argent peut être ou est la source du mal. Si tu as l'amour de l'argent, alors c'est là que vient la source du mal. Parce que lorsque on a cet amour de l'argent, alors tu commences à courir après l'argent, tu commences à pourchasser, tu es rempli de ce désir, de cette soif d'argent. Et c'est là que dans d'une certaine manière, l'argent est un problème, parce que c'est l'amour de l'argent. Aimer l'argent est en fait un piège et amène la corruption. Nous savons ce que l'argent a parfois provoqué chez les hommes. Alors ne pointe pas du doigt uniquement la corruption parmi les hommes politiques ou les hommes haut placés en responsabilité, mais examine autour de toi les situations où l'argent, l'amour de l'argent crée un égoïsme, où les gens ne pensent qu'à eux-mêmes, où des gens, lorsqu'ils n'ont pas d'argent, sont prêts à aller voler. Et regardez même, peut-être même dans votre propre maison, où toi, jeune homme, jeune fille, tu vas être prêt à voler l'argent dans le porte-monnaie de ta maman ou de ton papa. Et là, le vol va t'amener ensuite à mentir, à nier avoir volé. Donc, nous voyons que l'amour de l'argent est la source de tous les maux, et l'amour de l'argent est la source de bien des péchés qui sont la conséquence. Certaines personnes sont prêtes même à se prostituer par amour pour l'argent. Même lorsque ces personnes savent qu'il y a des maladies sexuellement transmissibles, comme le sida, mais malgré cela, à cause de l'amour de l'argent, ils sont prêts à se prostituer. Donc, si toi, tu as ce désir, cette faim d'argent, tu seras prêt peut-être même à tuer pour de l'argent. Nous savons, il y a des faits divers avec des épouses qui sont prêtes à tuer leur mari afin de toucher l'assurance vie de leur mari. Il y en a aussi qui sont prêts à payer des hommes de main ou des tueurs pour supprimer, pour faire tuer certaines autres personnes. Et ces hommes, ces tueurs à gages, sont prêts à tuer à cause de l'amour de l'argent. Et nous voyons même dans la Bible et pour l'histoire de Jésus, Judas a été prêt à vendre Jésus pour 30 pièces d'argent parce qu'il est dit qu'il aimait l'argent. Donc, vous voyez, même certains sont prêts à renier leur foi, à abandonner la foi en Christ à cause de l'amour qu'ils ont pour l'argent. Peut-être certains savent qu'ils sont appelés à prêcher l'Évangile, qu'ils sont appelés à être missionnaires, à œuvrer dans l'œuvre de Dieu, mais à cause de l'amour pour l'argent, ils refusent ou ils ne suivent pas cet appel que le Seigneur leur a donné. Peut-être même, il y en a qui ont déjà été prédicateurs, qui ont annoncé l'Évangile et qui, après un certain temps, vont laisser cela de côté et vont même abandonner la foi pour certains à cause de l'amour de l'argent et à cause de, oui, ce désir de richesse. Et même on voit dans certaines églises, les hommes quitter leur église pour créer leur propre dénomination par amour pour l'argent. Je me rappelais une fois où j'ai été invité à l'université du KwaZulu-Natal. Et j'avais été invité suite à la défection ou l'intervenant. Et l'intervenant qui devait prêcher n'a pas pu venir. Et alors qu'on m'a demandé de prendre sa place, on m'a dit « Et vous voulez combien pour prêcher ?» Je dis « Mais je ne demande rien, je viens prêcher gratuitement. » Alors ils m'ont dit « Ah bon, c'est gratuit avec vous ?» Parce qu'ils étaient étonnés que je ne demande rien. Parce qu'ils disaient, ils m'ont dit « Mais le prédicateur qui devait prendre la réunion, qui aurait dû prendre la réunion, lui demandait 4000 randes. » Alors nous voyons que dans ce verset que nous avons lu, il est dit « Sache bien que dans les derniers temps, les hommes seront avides d'argent, seront auront l'amour de l'argent. Et on pourrait dire tant de choses encore. Mais en raison du temps, on ne peut pas s'étendre plus sur le sujet. On ne pourrait pas détailler tous les points. Vous savez, même certains demandent à être enterrés et que leur cercueil soit rempli d'argent. Et que ce soit chez les super-riches ou chez les super-pauvres, partout on trouve cet amour de l'argent. Idéalement, les gens riches devraient aider les gens pauvres, parce que la Bible nous dit « Aime ton prochain comme toi-même, aide les pauvres, viens leur en aide ». Et c'est malheureux quand tu es pauvre parce que tu es tout simplement feignant. Mais la Bible nous dit que celui qui est paresseux ne mange pas. Alors, il y en a qui vont dire « Ah, je n'ai pas d'argent parce que je n'ai pas de travail, je ne trouve pas de travail à la ville. » Mais alors, ma question est-ce que tu n'as pas un peu de lopin de terre, un petit lopin où tu peux planter des légumes ou planter différentes choses qui peuvent nourrir, te nourrir et nourrir ta famille. Mais certains aujourd'hui préfèrent planter la marijuana. Et une fois, j'ai été témoin comme ça d'un champ où il y avait une plante verte qui poussait. Alors j'ai demandé, mais qu'est-ce que c'est que cette plante ? On m'a dit, ah, c'est la marijuana. Et alors, ces gens, malgré le fait qu'ils travaillent ou qu'ils plantent, mais parce qu'ils plantent ce genre de choses, cela n'apporte pas la bénédiction. Et alors l'argent qu'ils génèrent par ce genre de plantation n'est pas une bénédiction. Et même certains, malgré le fait qu'ils fassent des bénéfices, on voit qu'ils restent pauvres, parce qu'il n'y a pas de bénédiction sur ce genre de plantation. Et souvent, certaines personnes ont un lopin de terre avec une terre formidable, très fertile, et même certains avec de l'eau. Et même si vous n'avez pas d'eau, vous pouvez toujours réutiliser l'eau de la maison et ainsi arroser vos plantes. Donc le problème, comme nous l'avons lu, c'est l'amour de l'argent. Et les prisons sont pleines d'hommes et de femmes qui sont victimes ou qui sont en prison à cause de l'amour de l'argent. Même si tu as été baptisé, même si tu as pris la scène dans ton église, même si tu es membre de l'église, et même si tu as un jour, si on met ta carte de membre dans l'église, dans ton cercueil, cela ne t'ouvrira pas le ciel, à moins que tu aies le ticket d'entrée pour le ciel, le véritable ticket. Le certain pasteur Bengu a dit « Tu ne vivras pas par la sueur du cheval, mais par ta propre sueur. » C'est ce que la Bible nous dit, que c'est la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. souviens-toi que même ceux qui jouent au jeu de hasard ou loto, alors souviens-toi qu'ils sont très peu les gagnants. Par contre, il y en a beaucoup qui perdent beaucoup d'argent à cause de ces jeux, de ces jeux de hasard. Mais combien de femmes et d'enfants souffrent à cause de l'amour de l'argent, du père qui dépense tout l'argent dans des jeux de hasard, au loto, dans toutes sortes de jeux de hasard. Alors ils sont prêts à aller à un casino, à Sun City, et alors ils dépensent tout leur argent à cause de l'amour qu'ils ont pour l'argent, parce qu'ils pensent qu'ils vont en gagner plus. Donc, la parole nous dit, ceux qui recherchent les richesses, qui poursuivent les richesses, seront troublés par toutes sortes de difficultés, par toutes sortes de soucis à cause de l'amour qu'ils ont pour l'argent. Certains sont même prêts à aller jusqu'à tuer. Certains sont prêts à aller tuer d'autres pour avoir de l'argent. Il y a l'histoire de deux garçons qui étaient héritiers d'un grand empire, on va dire, d'affaires. Et ces deux garçons ont tout dépensé à cause des jeux d'argent, sur les chevaux, à cause des prostituées, à cause de l'alcool. Et qu'ils tournaient, ils payaient des tournées à tous leurs amis. Comme dans l'histoire du fils prodigue, nous savons qu'il est parti de la maison de son père avec de l'argent, avec des richesses que son père lui avait données. Mais rappelez-vous, comment a-t-il fini? Avec les cochons dans la porcherie. Donc, il est dit même que le fils prodigue désirait ou avait envie de manger la nourriture des cochons, mais que personne ne lui en donnait. Si vous lisez le texte original en grec, et il est dit que lorsque le propriétaire des cochons, il est dit, si on lit le texte original, qu'il utilisait cette fils prodigue pour des relations homosexuelles. Alors, mon jeune homme, jeune fille, si tu as cet amour de l'argent, alors sache que tu vas aller dans des problèmes, tu vas te retrouver dans des difficultés. Donc l'histoire de Johnny et Tim, finalement, ils ont fini au tribunal. Et la mère de ces deux garçons, alors, a dit, ah, cet argent a été une malédiction pour mes deux garçons. Quand elle a vu le désastre, les conséquences dans la famille, alors elle a dit, l'argent vient du diable. C'est ce que cette mère de ces deux garçons a dit lorsqu'elle a vu les conséquences dans leur famille, malgré les richesses. Mais l'amour de l'argent amène la malédiction. Une personne qui aime l'argent se place sous la malédiction. Et beaucoup, malheureusement, dans le monde, sont maudits dans le monde aujourd'hui à cause de l'amour de l'argent qu'ils ont. Il ne devrait pas en être ainsi. Nous lisons dans Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, il est dit, donc Malachie 3, verset 9, « Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore et il ne détruira plus les produits de vos terres. » Alors, considérez la grande souffrance de ceux qui n'ont pas d'argent. Alors, sers le Seigneur de tout ton cœur et n'oublie pas de donner la dîme au Seigneur. N'oublie pas de soutenir l'œuvre du Seigneur. Alors tu verras comment le Seigneur peut te bénir. Et certains, vous connaissez que le dentifrice de Colgate, certains utilisent d'autres manières ou d'autres dentifrices. Certains même se brossent les dents avec le savon, mais environ il y a 200 ans, au 19e siècle, donc en 1800 et quelques, donc à peu près il y a 200 ans, il y avait un garçon qui venait d'une famille pauvre, qui n'avait rien. Sa mère était malade, il n'avait pas de nourriture à la maison et elle sortait de la maison pour quémander de la nourriture. Et le petit garçon ou le garçon allait chercher du travail et il priait en même temps en disant « Seigneur, aide-moi à trouver du travail parce que tu vois, ma mère se meurt. » Et un jour, il s'est agenouillé et il a dit « Seigneur, je me consacre à toi. Je me donne tout entier à toi. Seigneur, utilise-moi. » Utilise-moi et viens-moi en aide. Et il a dit, Seigneur, je me consacre, je me donne à toi et mon désir est d'être un vrai chrétien. Et il a continué à prier en disant, « Seigneur, si tu me permets d'avoir un travail, les revenus que j'en tirerai, alors je les consacrerai à toi. » Et il a aussi participé dans une église, il a partagé, témoigné de sa foi, et un jour il a trouvé un travail. Et quand il a gagné son premier salaire, il a donné la dîme. Alors, 10%. Et il a promis en disant, « Seigneur, chaque dollar que je gagnerai, je t'en donnerai la dîme, je te donnerai 10%. » Donc, toujours, il a été fidèle et chaque dollar, chaque fois qu'il avait quelque chose qui rentrait, qu'il gagnait un peu d'argent, alors il donnait la dîme. Et moi-même, je peux témoigner aussi que j'ai toujours donné la dîme. Et si je reçois 30-30, alors je donne à l'œuvre du Seigneur au moins la dîme. Et peut-être que toi, tu n'as pas d'argent parce que tu n'es pas fidèle en cela. Et donc, ce garçon qui s'appelait William Colgate, Dieu l'a béni. Et alors, il a continué, le Seigneur l'a béni, et il a commencé à faire des savons et puis des dentifrices. Peut-être que tu connais la marque Colgate et tu ne connais pas l'histoire de William Colgate, qui a été un garçon qui s'est consacré à Seigneur et qui a été fidèle dans ses dîmes. Et le Seigneur a pu le bénir dans ses entreprises. Je connais quelqu'un qui se brossait les dents avec du dentifrice Colgate, et puis un jour il a commencé à se brosser les dents avec du savon Palmolive. Et Colgate a réussi dans les affaires et en faisant différents produits. Et le Seigneur l'a béni et jusqu'au point où il a vendu ses produits partout dans le monde. Mais le Seigneur l'a béni à cause de sa fidélité à soutenir l'œuvre de Dieu. Et après un certain temps, Colgate a dit... Je ne vais pas seulement donner la dîme, 10%, mais 20%, et puis 30%. Et puis, un certain temps, il a dit 40%, Seigneur, je te donne. Et puis, toujours plus, il a dit, Seigneur, je vais te donner toujours plus. Et alors, il a donné 50%, la moitié de ses revenus. Il a dit, Seigneur, je te donne la moitié de mes revenus, et ainsi il a soutenu son église. Et finalement, à la fin de sa vie, il donnait l'intégralité de ses revenus pour soutenir l'œuvre de Dieu. Alors si je peux te donner un conseil, si tu veux ne pas rester pauvre toute ta vie, alors lis ce verset, relis ce verset, parce que le Seigneur dit, vous êtes sous le coup d'une malédiction, parce que vous tous, vous me volez. Alors rappelle-toi, commence déjà à respecter ce que la parole de Dieu nous dit, donne la dîme. Si le Seigneur t'accorde d'avoir 10 chèvres, alors mets une chèvre de côté pour le Seigneur. Et le Seigneur dit même, testez-moi. C'est dans le verset suivant. Mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel. Alors vous verrez bien si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et William Colgate a été un exemple en ça. Et rappelez-vous, quand il était jeune, même quand sa mère était malade, il s'est consacré au Seigneur et il a pris la décision en disant « Seigneur, tout ce que tu m'accorderas financièrement et matériellement, je vais donner, m'engage à donner la dîme. » Et même si ça fait bientôt 200 ans, cette histoire, tu peux aller dans quasiment tous les magasins dans le monde et tu trouveras le dentifrice Colgate ou Palmolive. Et donc, voilà l'histoire de ce garçon, Colgate. Alors rappelle-toi, quand tu te laves les dents, tu brosses les dents avec Colgate, du dentifrice Colgate, ou que tu te laves avec Palmolive, alors j'espère qu'à chaque fois tu te rappelleras de cette histoire et de ce jeune homme Colgate. Il y a aussi une autre histoire d'un autre jeune en Amérique. Et un homme qui s'appelait John D. Rockefeller. Donc son nom, John D. Rockefeller. Peut-être toi, tu es jeune et tu ne connais pas qui est cet homme. Mais je pense pour beaucoup d'entre nous, nous avons déjà entendu ce nom de Rockefeller. Rockefeller a aussi dit un jour, « Seigneur, tout ce que je gagne, je t'en donne 10%, la dîme. » Parce que tout ce que j'ai, c'est de ta part. Alors, en retour, Seigneur, je veux t'honorer en respectant la dîme. Alors, vous savez que je ne suis pas un prédicateur qui cherche l'argent. Je n'ai jamais demandé d'offrande. Je n'ai jamais demandé d'argent dans des réunions. Mais si je partage ces choses, c'est parce que c'est ce qu'il y a écrit dans la parole de Dieu. et c'est là une clé pour comprendre ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc Rockefeller a pris l'engagement en disant: Seigneur, je veux te donner la dîme. Donc, pour certains, l'argent peut être une bénédiction, peut être bien utilisé. Pour d'autres, ça peut être une malédiction. Encore un autre exemple d'un prédicateur qui s'appelait Criswell. Et un jour, il a prêché sur ce sujet de l'argent. Et dans ses prédications, il citait l'exemple d'un certain Rescousse, John Rescousse. Et cet homme, Rescousse, lorsqu'il est devenu croyant, il a aussi honoré Dieu avec ses richesses, avec ses revenus. Et un jour, dans l'église, quand l'offrande a été présentée, alors, c'est une pratique dans certaines églises. Nous ne le faisons pas. Mais c'est la pratique dans certaines églises. Et alors, ce Rescousse, et quand l'offrande avait passé, ou la quête dans l'église, alors, il a donné $300 dans la quête. Et rappelez-vous que à l'époque, cet argent, ce dollar, valait beaucoup plus qu'aujourd'hui. On pourrait dire que c'était peut-être l'équivalent de 300 000 rand aujourd'hui. Et alors, au moment où il a mis l'argent dans la quête, dans l'assiette, il a dit: « Je te reverrai au ciel. Je vous reverrai au ciel. » Et quand il a dit ces paroles, alors qu'il y avait la quête, et ceux qui étaient autour, quand ils ont entendu ce Rescousse dire de telles paroles, alors qu'il mettait l'argent dans la quête, ils se sont dit: non, mais il est en train de perdre la tête. Il est vieux et il ne sait pas ce qu'il raconte. Il devient sénile. Au moment où il a dit ça, en mettant ces $300, en disant comment peux-tu dire que tu reverras ces dollars au ciel? Mais les autres ont répondu: mais comment tu peux dire cela? Nous disons, quand nous irons au ciel, nous allons retrouver le Seigneur. Comment peux-tu parler de cette manière en disant que tu vas retrouver tes dollars au ciel? Alors la Bible, rappelez-vous, nous dit: n'amassez pas de richesses, parce que c'est là où les mites, la rouille va manger, mais amassez-vous des trésors au ciel. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Donc ce Rescousse a mis ses $300, cette somme énorme à l'époque, dans la quête de l'église. Thank you. Et rappelez-vous, il a dit, voilà, je donne au Seigneur et je retrouverai cet argent au ciel. Et lorsque le trésorier a récupéré la quête et qu'il a compté l'offrande, l'argent qui a été donné, alors le trésorier a utilisé un peu de cet argent pour payer l'électricité de l'église. Donc il a pris un peu de l'argent de la quête pour payer l'électricité qui allumait les lumières de l'église. Avec un peu de cet argent, il a aussi payé le salaire du pasteur de l'église. Un peu de cet argent, de ces $300, il les a utilisés pour aider des étudiants à l'école biblique. Et encore un peu de cet argent a été envoyé à l'étranger pour soutenir des missionnaires qui étaient en mission dans des pays étrangers. Et donc, vous imaginez ces $300, ce que cela représentait à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, on dirait $300, c'est pas grand-chose. Mais $300, à l'époque, cela représentait beaucoup d'argent. Mais ce John Rescus, âgé en âge, et peu de temps après cet épisode où il a donné cet argent, il est mort. Et alors qu'il était allongé sur le lit, le pasteur est venu le visiter. Et ce pasteur a ensuite utilisé son exemple pour prêcher. Et le pasteur a dit, le premier dimanche ou les premiers moments où John Rescus a marché, était entré dans le ciel, il a marché dans des rues pavées d'or. Et voilà donc ce que le pasteur a raconté à son église. Et donc, quand John Rescus rentrera au ciel, alors un jeune homme viendra à sa rencontre en disant « Merci, monsieur John Rescus, parce que j'étais désespéré dans la rue et dans le noir. Et un soir, alors qu'il faisait froid et que je ne savais pas où me réfugier, alors je me suis approché près d'une maison éclairée, et c'était une église. L'église était éclairée, et je me suis réfugié dans cette église, parce que ce jeune se dit, je ne vais pas rester dans les ténèbres. Mais suite à cela, je me suis assis dans l'église, et à cause de cela, j'ai entendu l'évangile. Et non seulement je n'étais plus dans les ténèbres physiques, mais les ténèbres dans ma vie spirituelle se sont aussi arrêtées à cause de cet épisode. Et donc, ce jeune homme pourra dire à John Rescousse, Monsieur John Rescousse, merci pour l'électricité que vous avez payée. Un autre homme s'approchera de John Rescousse et lui dira, un certain pasteur un jour est passé à la station service où je travaillais. Et rappelez-vous que le trésorier avait donné de l'argent au pasteur pour payer son essence. Et donc cet homme dira à la station, à John Rescousse, merci Monsieur Rescousse, parce que alors que ce pasteur faisait le plein, alors le pasteur a partagé l'évangile avec le pompiste. Et ce pompiste raconte et dit, alors, grâce au témoignage du pasteur qui a pris l'essence, j'ai rencontré le Seigneur. Ensuite, John Rescousse verra une foule de personnes. Et cette foule diront à John Rescousse, merci John Rescousse, parce que alors que nous étions à l'école biblique, nous avons reçu de l'argent et nous avons ainsi pu devenir des prédicateurs et nous avons pu vivre, nous avons pu avoir à manger grâce à l'argent que vous avez donné à votre église. Mais c'était une grande foule, parce que cette grande foule comportait aussi ceux et celles qui avaient reçu Christ, qui avaient entendu l'Évangile grâce à ces étudiants de l'école biblique. Alors, je ne veux pas que je ne souhaite pas que vous soyez dans une situation de malédiction pour toujours. Et quelle que soit ton origine, jeune homme, jeune fille, que tu sois blanc, noir, métis, ou indien, que tu sois Kosa, Zulu, quelle que soit ton origine, Dieu ne fait pas de discrimination en fonction de cela. Mais Seigneur dit, Dieu dit qu'il veut bénir tous ceux. Il est dit même qu'il est prêt à ouvrir les écluses des cieux. Je ne sais pas si c'est un langage que tu comprends. Et rappelez-vous le texte et ce que nous avons dit en début, que c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Et rappelez-vous la parole dans Timothée qui dit « Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles car les hommes seront avides d'argent, auront l'amour de l'argent ». il y aura dans les derniers temps des hommes et des femmes qui voudront, qui auront l'amour de l'argent au point d'attendre que leurs parents meurent en disant « Ah, quand est-ce que le vieux ou la vieille va mourir, que je touche l'héritage ?» Et si tu as eu, toi, jeune homme, jeune fille, une telle pensée, un tel comportement, alors repens-toi. Repens-toi de ton égoïsme et de ton amour de l'argent. Paul dit à Timothée, détourne-toi de ces choses, détourne-toi de ces gens, parce qu'ils détruisent leurs âmes à cause de cela. Et rappelez-vous, c'est la même chose avec les gens qui souhaitent la mort de leurs parents, ou qui même vont voir leurs parents en disant, est-ce que tu as pensé à moi dans ton testament? J'espère que tu ne m'as pas oublié. De telles personnes sont sous le coup d'une malédiction, la malédiction liée à cet amour de l'argent. Et si c'est le cas pour toi, alors repens-toi. Les familles sont brisées, sont détruites à cause de l'amour de l'argent. Et la même chose pour les gens en pouvoir, ceux qui ont le pouvoir, bien souvent, il y a des désastres et toutes sortes de querelles, de disputes et toutes sortes de souffrances à cause de l'amour qu'ils ont pour l'argent, à cause de la fraude, de la corruption, de toutes sortes de mots liés à cet amour de l'argent. Alors, mon jeune homme, jeune fille, est-ce que tu as déjà confessé ce péché de l'amour de l'argent? Alors viens à la croix et confesse cela. Et alors, tu verras comment le Seigneur peut te bénir. Ce n'est pas quelque chose que tu dois reporter à demain, mais aujourd'hui, maintenant, repens-toi, cherche le Seigneur et implore son pardon, qu'avec son sang, il puisse te laver et qu'à l'avenir, tu puisses utiliser tes richesses de la bonne manière pour l'œuvre de Dieu. Nous conclurons en priant. Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné ta parole. Ta parole est une lumière sur notre sentier, comme une torche qui nous éclaire. Bien que le monde ténébreux et sombre, ta parole est comme une lumière qui brille. Et par ta parole, tu nous révèles les mystères du royaume des cieux. Seigneur, depuis trop longtemps, bien des gens se plaignent d'être pauvres et de ne pas avoir assez, de ne jamais avoir assez. Mais Seigneur, bien dans beaucoup d'entre eux, cela est la conséquence de ne pas te glorifier et t'honorer avec les richesses que tu leur accordes et à cause de la malédiction qui est sur eux. Mais Seigneur, nous te remercions pour ta parole et pour cette clé que tu nous donnes dans ta parole pour comprendre et que ta parole nous dit que nous pouvons te mettre à l'épreuve et nous verrons alors comment tu ouvres les écluses des cieux. Mais Seigneur, nous te remercions tout d'abord pour le sang et pour le sang qui purifie de tous les péchés. Amen. Alors que le Seigneur nous accorde la grâce de mettre en pratique ce que nous avons entendu. Nous avons entendu l'histoire de Colgate et de John Rockefeller. Et je peux témoigner que nous avons parmi nous, et je dois témoigner, je peux témoigner combien papa a souvent donné le dernier centime de ce qu'il avait. Et même, nous avons été témoins, nous-mêmes, les enfants, comment en chemin il était capable de donner son dernier rente sans même savoir comment il allait couvrir les frais supplémentaires. Et nous avons nous-mêmes, les enfants d'oncle Erlo, étaient témoins comment le Seigneur le pourvoyait à ses besoins 5 fois plus. Et nous avons entendu parler de la dîme. Et moi-même, nous les enfants, nous pouvons témoigner combien de fois papa a donné non seulement la dîme, mais tout ce qu'il recevait. Que le Seigneur nous fasse grâce. Pour conclure, nous voulons prier. Seigneur, nous te prions que la parole que nous avons entendue ce soir ne tombe pas dans des oreilles bouchées, sourde. Et Seigneur, que en sortant, nous puissions mettre en pratique la parole que nous avons entendue. Seigneur, tu nous as donné des promesses si merveilleuses. Oh, que nous ne rations pas, nous ne passions pas à côté de ces promesses. Amen.